O povo é quem mais ordena.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur le site Spectre, spectremedia.org, et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Spectre, c'est un site de podcast indépendant, militant, entièrement gratuit, que je vous invite par ailleurs à consulter et, si vous le pouvez, à soutenir financièrement. Alors aujourd'hui, j'accueille Antoine Dubiot, auteur du livre « Écofascisme au pluriel », paru aux éditions Grévis en 2022 et doctorant en géographie à l'Université de Genève. Avec lui, on va poursuivre dans la voie que nous avions empruntée dans des épisodes précédents avec Paul Guilibert puis Pierre Madelin, intitulé ces épisodes « Peste brune et greenwashing ». Ensemble, on va essayer d'approfondir l'analyse des rapports entre les extrêmes droites contemporaines et l'écologie. Question évidemment cruciale, à la fois parce que, comme on sait, tous les indicateurs sont au rouge en matière environnementale et que l'enjeu n'est rien moins que la reproduction des conditions de la vie humaine et non humaine sur la planète. Et par ailleurs, question cruciale, puisque au niveau mondial, l'extrême droite n'est pas une menace pour demain ou après-demain, mais se trouve au pouvoir d'ores et déjà dans un certain nombre de pays majeurs, les États-Unis évidemment, la Russie, l'Inde, l'Argentine, l'Italie, Israël, etc., où elle se retrouve aux portes de pouvoir, comme on sait dans d'autres pays, et notamment en France. Donc se pose nécessairement une série de questions qu'on va essayer d'explorer dans cet épisode. En premier lieu, est-ce que l'extrême droite est une famille politique qui serait uniformément hostile à l'écologie? Est-ce que ces incursions sur le terrain de l'écologie ne sont justement que du greenwashing, donc une sorte de déplacement purement opportuniste visant à capter de nouvelles clientèles électorales pour parvenir au pouvoir? Est-ce qu'il y a une écologie plus conséquente, en quelque sorte, d'extrême droite? Peut-on parler d'écofascisme et pour désigner quoi? Et puis également, d'un autre côté, quel rapport l'écologie entretient-elle avec l'extrême droite? Est-ce que le mouvement environnemental a un rôle à jouer dans la lutte contre l'extrême droite et notamment dans la redéfinition d'un antifascisme du XXIe siècle? Ce sont toutes ces questions et sans doute quelques autres qu'on va aborder aujourd'hui avec Antoine Dubiot. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, tu es l'auteur d'un livre donc sur l'écofascisme ou sur les écofascismes, mais j'aimerais qu'on commence cet entretien en parlant de carbo-fascisme, une expression proposée par Jean-Baptiste Fressoz il y a quelques années, il me semble, ou encore de fascisme fossile, pour reprendre le titre d'un ouvrage du collectif Zetkin, paru, là encore, il y a quelques années, aux éditions La Fabrique. Alors, pourquoi commencer par là? Parce que les forces d'extrême droite actuellement au pouvoir dans les pays que j'ai mentionnés relèvent très certainement de cette variété de fascisme ou d'extrême droite. Trump, parmi ses premières initiatives, il y a la sortie des accords de Paris, pour ne prendre que cet exemple. On connaît aussi toutes ces déclarations extractivistes ou hyper-extractivistes sur le ton de Drill Baby Drill. Donc, elle ne relève pas ces extrêmes droites au pouvoir de l'écofascisme, mais aussi parce que, du point de vue de son programme, de son idéologie, mais aussi de ses soutiens financiers, la grande majorité des extrêmes droites, y compris celles qui ne sont pas au pouvoir, relève plutôt, tu vas nous le dire, hein, du carbo-fascisme. Alors commençons peut-être par définir ce dont on parle. Qu'est-ce que ça désigne, carbo-fascisme ou fascisme fossile? Il me semble qu'on pourrait peut-être distinguer une dimension peut-être programmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir, ces carbo-fascistes, une dimension peut-être aussi stratégique qui est quelles alliances ils nouent avec peut-être certains secteurs du capital. Et puis, il y a la dimension aussi qui est importante de leur base sociale et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ressort dans la population favorisant l'arrivée au pouvoir de ces carbo-fascistes. Alors, peut-être prenons la première dimension qui est celle plutôt programmatique.
Oui, je pense que la définition du carbo-fascisme qu'on peut donner, c'est le fait qu'il y a une forme de convergence d'intérêts entre le capital fossile, donc c'est-à-dire l'ensemble des grandes firmes transnationales qui sont investies dans l'exploitation des hydrocarbures, et les extrêmes droites, on va dire partisanes, qui elles vont défendre les énergies fossiles un peu pour d'autres raisons. Donc d'intérêt, on a des intérêts plutôt économiques du côté du capital fossile qui défend ses intérêts économiques directs dans l'exploitation des hydrocarbures. Bon, c'est assez facile à comprendre. Du côté des extrêmes droites partisanes, c'est peut-être un peu plus des intérêts politiques, le fait de défendre une civilisation occidentale fantasmée qui est adossée aux énergies fossiles et dont la puissance et la suprématie en fait seraient adossées aux énergies fossiles. Donc il y a un peu une convergence d'intérêts entre ces deux groupes-là. Convergence d'intérêts, c'est, on va dire, la manière de le schématiser de manière globale. Parfois, c'est carrément un partage d'intérêts. On a un certain nombre d'industriels fossiles qui sont complètement investis dans la défense idéologique de valeurs réactionnaires. Bon, en France, on a le cas de Vincent Bolloré, dont on va dire que l'industrie extractive d'hydrocarbures, ce n'est pas le cœur de métier. Il a diversifié énormément ses activités, mais ça fait quand même partie un petit peu de ses activités. Lui, pour le coup, on a un carbo-fasciste très clair en la personne de Vincent Bolloré. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus cibler uniquement sur des personnalités comme ça. Il y a aussi une tendance un peu structurelle, en fait, du fait que... Le carbofascisme, à mon sens, c'est un concept qui permet d'intégrer la question écologique en fait, dans l'analyse un peu traditionnelle du fascisme comme produit politique de la crise du capitalisme. Un des éléments de la crise du capitalisme, c'est aussi en fait, la crise écologique aujourd'hui. Alors, on peut le voir de différentes manières. On peut voir à la fois, on l'intègre, la question du prix des hydrocarbures dans la crise du capitalisme d'un point de vue strictement économique. Donc le fait qu'il y a un certain nombre de ressources dont les prix sont assez fluctuants mais qui ont pu augmenter, et du coup ça fait qu'il y a une forme de raréfaction des ressources qui fait qu'il y a une forme de radicalisation du capital fossile dans le fait de défendre ses intérêts directs, tout simplement. Et puis on peut le voir de manière un peu plus méta aussi, de dire il y a une crise écologique qui sape les conditions matérielles de reproduction de la vie humaine, qui fait que forcément il y a aussi une réaction à cette destruction de la base de vie matérielle, quoi.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire également qu'il y a une dimension de réaction à la montée des mouvements environnementalistes, d'une écologie qui, par ailleurs, par certaines de ses franges, s'est sans doute radicalisée, en tout cas, où le discours radical et anticapitaliste a pu prendre dans des segments un peu plus larges des populations? Ça a toujours existé, une écologie anticapitaliste. Enfin, ça existe au moins depuis 50 ans, mais peut-être que là, il y a eu des mouvements et puis des tendances, par exemple, Greta Thunberg, vers une sorte effectivement, déguisement de l'écologie dans un sens plus clairement anticapitaliste. Est-ce que, de la même manière que l'extrême droite porte une dimension réactionnaire de backlash, de retour de bâton contre les mouvements féministes, contre la montée des mouvements antiracistes, est-ce qu'on pourrait pas pointer aussi ça ce fascisme fossile comme réaction à la montée des mouvements écolo-radicaux?
Je pense que c'est une composante importante, de la même manière que le fascisme historique répond au mouvement ouvrier, aux tendances émancipatrices du mouvement ouvrier. Là, on peut faire le parallèle aussi avec les mouvements écologistes contemporains. Après, je pense que c'est une composante de la chose, c'est-à-dire que c'est globalement un backlash contre l'ensemble des mouvements progressistes. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une spécificité écologiste de ce point de vue-là. Et globalement, je pense que ce concept de carbofascisme, il est intéressant d'un point de vue descriptif, mais à mon avis, il ne faut pas non plus focaliser que sur l'aspect carbo du fascisme. Enfin, je veux dire, le fait qu'il soit carbo, c'est... une caractéristique parmi d'autres, mais je pense que c'est important pour réintégrer la question environnementale dans une perspective plus globale, et donc de voir qu'en fait les mouvements écologistes, ils sont placés aux côtés d'un certain nombre d'autres mouvements émancipateurs, qu'ils soient féministes, antiracistes, etc.
Et alors, d'un point de vue de programme de gouvernement, on a vu au pouvoir Trump entre 2016 et 2020, on a vu ensuite Bolsonaro, il y a eu les expériences aussi de Duterte, par exemple, aux Philippines, ou de l'extrême droite ou de la droite radicale polonaise, par exemple. Qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils sont pas au pouvoir, et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir, ces carbo-fascistes, pour l'essentiel? Enfin, quelles sont les dimensions de des politiques publiques qu'ils mènent en matière environnementale?
Alors, ça dépend un petit peu des contextes institutionnels à chaque fois. Si on prend le cas de Trump, par exemple, le premier mandat, entre guillemets, il a été un peu moins pire que ce qu'on aurait pu imaginer en termes de libération de la puissance extractiviste des États-Unis. Bon, alors, je ne suis pas en train de dire que les États-Unis ne sont plus un pays extracteur d'hydrocarbures. Hein. Évidemment que c'est quelque chose d'essentiel dans l'économie américaine. Mais disons que Trump avait, par exemple, le soutien du capital fossile. Donc, il a plutôt œuvré dans le sens de libérer ses potentialités extractives. Par contre, du fait du moindre alignement d'un certain nombre d'autres fractions du capital américain, ça fait qu'il n'avait pas non plus les mains libres pour faire absolument tout ce qu'il voulait. Ce qui est un petit peu différent de ce qui s'amorce, à mon sens, avec le nouveau mandat, où là, comme il y a un alignement beaucoup plus général du capital américain sur le régime trumpiste, là, au contraire, peut y avoir davantage de possibilités qui sont ouvertes pour Trump. Voilà. Après, sur les politiques carbo-fascistes, on va dire, de manière globale, moi, je ne suis pas spécialiste, on l'a dit au début, de ce sujet-là. Je renvoie au livre « Fascisme fossile » que tu as cité. Et puis, en fait, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ce sujet-là, sur les liens entre écologie et extrême droite. Il y a plein de chercheurs et chercheuses internationales qui travaillent là-dessus. En France, finalement, assez peu. En langue française, en tout cas, on a assez peu de travaux sur le carbofascisme. Tu avais cité notamment Jean-Baptiste Ressos, qui avait été le premier à utiliser ce terme de carbofascisme. Mais par exemple, lui, il n'est pas non plus spécialiste de ce sujet. C'était une petite tribune dans Libération qui avait été publiée. Il y a ce livre « Fascisme fossile », mais qui est du coup une traduction de travaux faits par des chercheurs et chercheuses internationales. Donc on a assez peu de ressources, on va dire, sur ce concept de carbofascisme. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler plus largement. Il commence à y avoir des ressources un peu aussi, je dirais, plus grand public sur ces questions-là. Il y a la revue Fracas qui a fait un numéro qui s'appelle « La menace carbofasciste » il n'y a pas longtemps, qui était le numéro 2 de cette revue écologiste, qui documentait un certain nombre de choses d'un point de vue un peu plus matériel aussi, de l'influence de certains lobbies pétroliers dans certaines sphères politiques, etc. Il y a eu une vidéo sur Blast aussi, sur la question du carbofascisme.
Paloma Moritz, je crois.
Exactement, qui introduit aussi le concept. Et je pense que c'est assez important de commencer à travailler dessus. Mais on a quand même encore un peu un déficit, je pense, de connaissances sur, concrètement, l'articulation entre capital fossile et extrême droite partisane, quoi.
Et le RN, ils sont carbofascistes ?
Le RN, c'est un cas un petit peu compliqué pour plein de raisons. Il y a plein d'éléments qu'on pourrait intégrer un peu au cadrage. Il y a le fait que la France est un pays très nucléarisé. Donc ça fait que la puissance, on va dire, fossile est moins présente dans l'imaginaire national que dans d'autres pays, qu'aux États-Unis notamment, qui s'est quand même construit en grande partie sur l'extraction de pétrole, quoi. Donc forcément, ça fait que c'est quelque chose qui est un peu moins mis en avant. Après, c'est assez évident que c'est un parti qui a été climato-sceptique pendant très longtemps, etc. Et donc forcément, il y a quand même des restes de ce point de vue-là. Et puis, par contre, dans un certain nombre d'éléments de son programme, plus de comment il s'adresse à ses électeurs, là, il va plutôt défendre les énergies fossiles en général. Mais le RN, c'est un cas particulier, et je pense qu'on va y revenir plus tard, qu'on va parler plus d'écofascisme, parce qu'il défend une idée qui s'appelle l'écologie du bon sens, qui laisse croire que c'est un parti qui va s'approprier à la question écologique, qui en fait un enjeu important. En fait, cette écologie du bon sens, c'est plutôt une modération des ambitions écologiques. C'est plutôt dire, en fait, l'écologie en général va trop loin. Donc, il y a un petit peu un artifice sémantique autour de ce terme d'écologie du bon sens, mais qui correspondrait plutôt à ce qu'on pourrait appeler un carbofascisme, effectivement.
Et il y a un terme que tu as utilisé qui est très courant dans le débat public, qui est le terme de climato-scepticisme ou climato-négationnisme. Il a une place évidemment centrale dans cette affaire de carbofascisme.
Oui, moi c'est un terme que j'utilise plus.
D'accord.
Justement parce que je pense que c'est un terme qui centre beaucoup les choses sur est-ce qu'on croit ou non à la science, est-ce que l'extrême droite croit ou non à la science. Et je pense que voilà, on reste sur un cadrage très idéaliste, hein, pour reprendre un vocabulaire un peu daté parfois. Le carbofascisme. L'objectif de ce concept, c'est montrer qu'il y a des intérêts matériels derrière l'obstruction climatique. Ce qu'on appelle obstruction climatique dans la littérature, c'est à la fois obstruction vis-à-vis de la construction de connaissances climatiques. Donc, ce qu'on voit aux États-Unis très clairement avec la fermeture des unités de recherche sur les questions climatiques, ça, c'est une des formes. L'obstruction climatique, ça peut aussi être l'obstruction vis-à-vis de politiques climatiques ambitieuses. Et là, on le voit aussi aux États-Unis avec le retrait des accords de Paris, etc. Donc, le concept de climato-scepticisme, en fait, il brouille un petit peu, il masque un petit peu la réalité de comment le rapport à la question climatique et à la question écologique de manière plus large se construit au sein de l'extrême droite et au sein de la société en général. Ça ne veut pas dire que le RN a une connaissance fine des rapports du GIEC, qu'en fait, il se positionne uniquement par rapport à ses intérêts, etc. C'est évidemment quelque chose de plus complexe, mais je pense que le terme, il vaudrait mieux l'évacuer et plutôt préférer le terme d'obstruction climatique et de carbofascisme pour montrer les intérêts matériels qui sont en jeu, quoi.
Alors, tout à l'heure, tu as parlé dans ta définition du carbofascisme de l'attachement au mode de vie occidental et d'une certaine manière aussi, on pourrait dire, la construction d'une figure de la blanchité qui peut-être implicitement ou parfois explicitement est associée à ce fascisme fossile. Et alors justement, dans quelle mesure l'extrême droite a tendance à justement entretenir et en même temps s'appuyer sur cet attachement à un certain mode de vie fondé autour de la bagnole, en avoir une, deux, voire trois dans le cas par exemple des États-Unis où c'est assez courant, de manger beaucoup de viande et par ailleurs, est-ce que ça vient pas également toucher à une certaine construction de la masculinité autour du barbecue et de la bagnole? Est-ce que justement c'est pas un des ressorts parmi beaucoup d'autres évidemment, hein, des succès de l'extrême droite, de cette extrême droite carbofasciste justement dans la dernière période?
Oui, je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel. Là, on arrive sur la question de la base sociale du carbofascisme, qui à mon sens, c'est quelque chose qui est encore assez peu étudié. On a beaucoup étudié le carbofascisme à partir de ce qui se passe dans les hauteurs stratégiques de l'économie, les alliances entre grand capital fossile et puis les forces politiques d'extrême droite. Voilà, c'est très important, mais on ne peut pas occulter le fait qu'il y a aussi une base sociale du carbofascisme. Et là, c'est difficile à caractériser, à documenter, mais je pense que la question de l'attachement à un certain mode de vie est assez essentielle. Mais en fait, c'est toujours une ambivalence entre attachement et dépendance. Si on prend la question de la voiture individuelle, il y a aussi toute une partie de cette base sociale du carbofasciste, qu'on pourrait dire, qui habite globalement dans les espaces périurbains, ruraux, qui est dépendante matériellement de ce mode de transport. mais qui en même temps y est attaché, parce que ça garantit une forme de stabilité familiale. Enfin, c'est un peu le cœur.
Et d'autonomie.
Nucléaire, quoi. D'autonomie, complètement. Et en fait, il y a des modes de vie qui sont complètement structurés autour de la voiture individuelle. Il y a des gens qui ne travaillent pas spécialement sur cet aspect écologique qui l'ont bien montré. Je pense à Benoît Cocard, par exemple. Il montre bien à quel point la voiture individuelle, elle permet, elle structure les sociabilités locales dans un certain nombre de territoires. Alors lui, il a un cas d'étude assez précis, mais en fait, c'est quelque chose qui a été étudié dans pas mal d'autres cas. Donc, il y a toute une construction d'infrastructures routières, en fait. Et puis, il y a aussi un étalement urbain ou un émiettement urbain avec aussi une prise de distance de plus en plus importante, entre le lieu de travail et le lieu d'habitation, entre les lieux de sociabilité aussi interfamiliaux, etc., qui font que la voiture individuelle, en fait, elle est devenue indépassable dans les sociabilités populaires dans un certain nombre de territoires, à la fois parce qu'elle est... Il y a une forme de dépendance vis-à-vis de ce mode de transport, mais aussi un attachement, parce que tout un tas de formes sociales sont associées à ce mode de transport, quoi.
Oui, c'était aussi un des enjeux du mouvement des Gilets jaunes, cette question de la distance entre le lieu d'habitation et le lieu de travail, qui est aussi liée, enfin une distance croissante, hein, qui est aussi liée à des formes de désindustrialisation, avec des petites villes, voire des villages qui étaient centrés autour d'une mono-industrie et qui ont vu les usines partir à partir des années 70-80 et jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a cette centralité, en quelque sorte, de la question des mobilités, bon, qui est même y compris de plus en plus politisée d'un côté ou de l'autre à travers un clivage un peu binaire entre des bobos, je n'aime pas l'expression évidemment, elle ne désigne rien de très précis, mais dans l'imaginaire elle désigne quelque chose, bobos des villes qui utilisent leur vélo versus prolos des champs qui ont besoin de leur bagnole, quoi. Et en fait, par ailleurs, quand on étudie les choses, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué, parce que par exemple dans les grandes villes, ceux qui ont des voitures et des voitures qui consomment plus et des grosses voitures, c'est plutôt des bourgeois ou des membres des classes supérieures au sens large. Les prolétaires, pour le coup, des villes sont plutôt moins équipés en voiture et ont tendance à prendre davantage les transports en commun. Donc, comment en écologiste, on s'approprie cette question des mobilités pour peut-être défaire aussi ce que fait l'extrême droite, c'est-à-dire qu'elle se construit beaucoup sur ce clivage un peu binaire, et peut-être la bonne attitude n'est peut-être pas de jouer uniformément sur l'aspect mobilité, comme le font un peu les écolos, enfin Europe Écologie Les Verts. C'est quoi ta position par rapport à ça, justement ?
Alors, je vais répondre en deux parties. La première, c'est que moi, je suis quand même assez pessimiste sur une chose, qui est que je pense que cette question de la mobilité, elle est aussi... Enfin, on peut difficilement parfois la contourner, dans un sens que, d'un point de vue très matériel, l'étalement urbain, c'est quelque chose qui a une matérialité... on va pas le retourner du jour au lendemain, et on va pas pouvoir mettre des bus absolument partout, quoi. Et je pense qu'en fait, il y a la conscience latente dans une partie de cette base sociale garbo-fasciste qu'en fait, le modèle écolo proposé, en fait, il est difficilement exportable dans un certain nombre de territoires. Et là, on est sur un cas précis. On parle beaucoup de la France, mais il y a un certain nombre d'autres pays occidentaux qui ont eu le même phénomène d'étalement urbain et donc de périurbanisation. Il y a des pays où c'est beaucoup moins le cas. Moi, maintenant, j'habite en Suisse. Cette dépendance à la voiture, elle n'est pas du tout pareille, parce qu'il n'y a pas de nappe pavillonnaire de la même manière. Donc, ça fait qu'il peut y avoir un maillage, on va dire, du territoire en termes de transport public qui peut être un petit peu différent. Donc, ce n'est pas la question de la mobilité, de la dépendance à une certaine forme d'automobile, ne se pose pas du tout de la même manière. Donc, je pense que faut insérer ça après dans un schéma plus global, et c'est la deuxième partie de la réponse, c'est de montrer que, en fait, cette défense de la voiture individuelle, elle s'intègre, mais tu l'as très bien dit, hein, un récit plus général de fracture territoriale sur lequel l'extrême droite essaye de capitaliser, qui est celui, en gros, de la France périphérique, qui serait minorisée par rapport au centre urbain et aux banlieues, qui serait, en gros, une société multiculturelle contre une société, on va dire, blanche minorisée. Je pense qu'il y a ce récit-là, en tout cas, dans lequel la question écologique s'intègre. Ça ne la reconfigure pas spécialement, mais ça s'intègre assez bien dedans, quoi.
Oui, une France périphérique qui serait par ailleurs choyée par l'État, favorisée par les politiques publiques de toutes sortes, voilà, logement, transport, école, etc. Et une France périphérique qui, elle, serait laissée à l'abandon, en fait. Bon. Et c'est un récit, par ailleurs, qui a été promu par des gens qu'on n'associe pas ou qu'on n'associait pas initialement à l'extrême droite, notamment Christophe Guilly, géographe ou pseudo-géographe.
Bon, peu importe, je ne suis pas sûr que jouer la carte de l'autorité universitaire, ça soit forcément une bonne chose, ce que beaucoup de géographes ont fait contre lui, parce que c'est quelqu'un qui a seulement un master et pas une thèse, et du coup, voilà, c'est comme ça que son récit a été un peu délégitimé. Pour moi, il y a plutôt d'autres éléments à montrer que voilà, c'est un récit très binaire d'un point de vue spatial, etc. Par contre, ce qui est important avec le concept de France périphérique, je pense, c'est qu'il a été beaucoup réfuté pour dire, voilà, en fait, il est trop simpliste, il n'écrit pas assez bien la réalité sociale dans les territoires périurbains, ruraux, etc. Je pense que c'est assez vrai hein, d'un point de vue sociologique et géographique. Par contre, c'est quand même un récit qui a une certaine puissance politique et qui a un peu cette fonction classique du récit fasciste d'agréger, enfin récit interclassiste qui agrège un certain nombre de couches de la société et puis qui fige les hiérarchies sociales et qui dit en fait voilà, vous allez tous faire, vous faites tous partie d'un ensemble supérieur qu'est la nation qui va rétribuer un peu chacun à sa place, mais du coup qui n'est pas du tout un récit de remise en cause des inégalités existantes quoi. Donc je pense que la manière dont ce récit de France périphérique a été critiqué, en fait, n'a pas toujours été très efficace. On n'a pas forcément bien compris parfois la fonction idéologique que pouvait avoir ce récit de la France périphérique. Malgré le fait que sociologiquement, oui, je suis d'accord sur le fait qu'il est assez binaire et puis racial aussi, surtout.
Oui, c'est ça. Et puis, par ailleurs, ça renvoie... Une des forces ou une des raisons de la puissance de discours, c'est qu'il renvoie à une vieille urbaphobie ou une phobie de l'urbain qu'on trouve alors dans les courants, dans une partie au moins des courants d'extrême droite. Parce que l'urbain, la ville, c'est le lieu de la promiscuité avec les minorités, avec l'immigration. C'est le lieu d'une insécurité qui serait fondamentale du fait d'ailleurs de cette immigration et de la présence des minorités. Et puis une urbaphobie qui est présente aussi dans le tissu social des zones rurales, semi-rurales ou des petites villes. Donc il y a des connexions qui peuvent se faire assez facilement, très certainement sur le plan un peu idéologique.
Ouais, je pense que la question de l'urbaphobie, elle est assez centrale. Bon. Faut la réinsérer aussi dans quelque chose d'un peu plus global, qui est la défense de l'idéologie propriétariste, qui en fait n'est pas quelque chose qui est ancré dans la culture française, comme ça peut être dans d'autres pays, notamment Royaume-Uni, etc. Il y a plutôt eu tout un tas de réformes de politique du logement qui ont favorisé l'accès à la propriété et donc qui ont participé au développement des nappes pavillonnaires, de ce qu'on appelle donc les territoires périurbains. Et je pense que tous ces éléments-là, ils sont importants toujours à réintégrer à l'analyse. En fait, c'est la question de la base sociale du carbofascisme, elle n'est pas déconnectée des politiques d'aménagement du territoire, ou en tout cas des politiques de construction de logements individuels. Et donc je pense qu'il faut réussir à intégrer tout ça de manière assez fine, et c'est quelque chose qui n'a pas encore trop été fait. Je précise quand même qu'il y a un texte du Zetkin Collectif qui a écrit ce livre, donc Fascisme fossile, dont on a déjà parlé, un texte qui est paru dans la revue Salvage en septembre 2024, qui essaye de travailler autour de cette idée que la voiture individuelle est le véhicule de l'extrême droite. Véhicule au sens strict comme au sens figuré. Et je pense que c'est un texte très intéressant et j'espère qu'ils vont continuer un peu leur recherche là-dedans, où ils travaillent autour de cette idée de, c'est pas le terme qu'ils utilisent, mais de base sociale du carbofascisme et de comment c'est un peu le cœur de l'idéologie familiale nucléaire, quoi.
Il y a cette dimension-là, on pourrait évoquer la dimension spéciste, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle également dans cette constellation idéologique-là ?
Oui, je pense que ça serait intéressant à intégrer à l'analyse. Je n'ai pas l'impression que ça a été encore fait. Moi, ça me parle comme approche, notamment parce que là, on pourrait passer plutôt par l'approche, par le spécisme de cette question-là, peut permettre de montrer qu'en fait, ça s'insère dans un paysage plus global qui est un certain rapport genré aussi à l'écologie. Et donc, le fait que défendre la voiture individuelle, le fait de cramer du pétrole, qui serait un signe de virilité, c'est comme aussi un signe de virilité le fait de manger de la viande. Enfin, il y a plein de travaux qui documentent ça. Moi, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans.
Manger de la viande et manger beaucoup de viande.
Voilà, manger beaucoup de viande. Il y a un livre qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande » de Carol Adams, qui a été retraduit en français il n'y a pas longtemps, qui documente ça très bien. Et puis, du point de vue plus des mobilités, il y a c'est un recueil d'articles qui a été traduit en français, qui s'appelle « Pétromasculinité » de Kara New Daggett, qui est une politiste américaine. D'ailleurs, c'est elle qui a posé la première le terme de fascisme fossile, c'est pas le Zetkin Collective. En fait, je trouve ces travaux très intéressants dans le sens où ils permettent de montrer que l'écologie, c'est une dimension explicative de la montée de l'extrême droite contemporaine, qu'il faut pas l'isoler, mais qu'on peut pas non plus l'écarter, quoi, et que c'est toujours une dimension parmi d'autres.
Et je trouve que dans ce que tu dis, on comprend bien aussi peut-être pourquoi il y a cette tendance à un accroissement, en tout cas au niveau mondial, hein, du gender gap, et qui peut s'appuyer sur justement la construction, je sais pas, de panique morale autour de « ils veulent nous empêcher de manger de la viande, ils attaquent des boucheries, etc. » Mais aussi un gap territorial qui me semble assez croissant entre les zones rurales et les zones urbaines. Le FN, par exemple, était plus fort dans les zones urbaines dans les années 80, à la fin des années 80, dans sa première percée électorale. Et aujourd'hui, il est plus fort à mesure qu'on s'éloigne des grands centres urbains. Donc, il y a quelque chose qui se joue à la fois dans la matérialité, très certainement la transformation à la fois industrielle ou de désindustrialisation, en tout cas la transformation économique et en même temps la transformation territoriale, environnementale, etc. Et quelque chose qui se joue aussi du côté des lignes qui sont proposées par l'extrême droite en termes de discours, d'agitation, propagande, etc.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il y aurait un gros travail de géographie du fascisme en fait à faire. Alors, il y a plein de travaux sur la géographie sociale et qui s'intéressent à la dimension territoriale du vote pour l'extrême droite, etc. Et puis on peut agréger ça à plein de travaux récents qui sont faits sur la dimension raciale du vote. Je pense à Félicien Faury que tu as reçu. Voilà, il y a plein de travaux qui existent déjà. Mais je pense que un peu dans l'idée de réfuter cette idée de France périphérique, on a loupé quelque chose. C'est-à-dire qu'on a loupé le fait que à chaque élection en France, on ait cette carte qui est globalement brune à part les centres urbains. Peut-être que, en fait, elle recouvre une diversité de situations locales, et ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de gens qui l'ont montré de manière très claire, et je me souviens, je pense que c'était après les présidentielles de 2022, il y avait eu, par exemple, Benoît Coquart et d'autres qui avaient répondu à Mediapart et qui avaient montré, voilà, en fait, il y a des effets de lieu très importants et qui montrent que c'est pas parce que le RN ressort en tête dans l'est de la France et dans le nord, par exemple, que, bon, là, c'est peut-être des réalités assez proches, mais on va dire dans le nord-est de la France et dans le sud-est, en fait, c'est pas les mêmes dynamiques sociales derrière, et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, je pense qu'il y a quand même un récit, et c'est ce que je disais sur le concept de France périphérique, qui permet d'agréger un certain nombre de situations très diverses dans une forme de rhétorique victimaire assez traditionnelle de, en fait, la nation qui est piétinée par les centres multiculturels, l'immigration, et puis la décadence des centres urbains. Donc, je pense que l'urbaphobie, encore une fois, elle est un peu sous-jacente à tout ça. C'est pas forcément l'élément, on va dire, le plus déclaré. C'est pas exactement comme ça qu'il émerge. Mais il permet d'articuler un rapport à l'écologie, un rapport aux mouvements sociaux émancipateurs, et puis un rapport plus simplement à la race et à la défense de la nation, quoi.
Alors, je te propose qu'on aille vers ton propre livre, donc, je l'ai dit, intitulé Écofascisme au pluriel, paru aux éditions Grévis en 2022. Et peut-être partir par la deuxième partie qui permettra d'articuler mieux avec ce qu'on vient de raconter, qui porte sur ce que tu appelles l'écologisation du fascisme. Alors, qu'est-ce que déjà tu désignes par là, donc par cette expression d'écologisation du fascisme ?
Écologisation du fascisme, à mon sens, c'est un processus essentiellement idéologique qui, en gros, commence à partir de la fin des années 80. Je parle bien d'un processus idéologique parce que l'écofascisme n'a pas une réalité, on va dire, matérielle dans un mouvement vraiment très clair, organisé, etc. C'est plutôt un ensemble d'intellectuels de la Nouvelle Droite, dont il a été déjà question plusieurs fois dans le podcast, qui se sont appropriés cette question écologique parmi d'autres. C'est pas la seule question que la Nouvelle Droite s'est appropriée.
Après l'avoir, par ailleurs, avoir critiqué les mouvements écologistes dans une première période, d'ailleurs, tu le dis dans le livre.
Exactement. En fait, si on revient dans les revues un petit peu classiques de la Nouvelle Droite, Éléments, Nouvelle École, etc. Bon, Crisis apparaît un peu plus tard, mais je vais y revenir après. C'est plutôt un rejet de l'écologie considérée comme thème gauchiste, quoi. D'ailleurs, il y a des critiques de Françoise Daubonne, qui est un peu l'initiatrice de l'écoféminisme, enfin, la première à avoir utilisé ce terme d'écoféministe, qui était donc une autrice écologiste et militante écologiste des années 70. Là, il y a plutôt un rejet assez clair. Et en fait, c'est un peu plus tard, au bout d'une dizaine d'années, qu'il y a plutôt un changement de position et que, en fait, l'écologie peut constituer, d'un point de vue idéologique, le cœur d'une forme de réflexion assez cohérente. Bon, en fait, on revient sur une dualité assez courante dans les mouvements d'extrême droite, dans presque tous les mouvements d'extrême droite, entre une branche un peu ésotérique, traditionaliste, etc., et une branche plutôt moderniste qui va défendre industrielle, etc. L'écofascisme, en fait, c'est une forme de retour sur la branche plutôt ésotérique, traditionaliste, ruraliste, qu'on peut trouver au sein de certains nombre de mouvements d'extrême droite, et qui va se focaliser sur cette dimension-là. Donc ça montre bien que c'est une partie seulement du corpus idéologique de l'extrême droite, et qu'il n'y a pas une conversion du tout de l'ensemble de l'extrême droite à la question écologique. Donc ce processus d'écologisation du fascisme, pour moi, il désigne précisément ça, une écologisation du mouvement fasciste de manière globale. C'est vraiment un processus idéologique.
Oui, dans la sphère militante, ça va surtout prendre dans certaines branches et pas tellement dans d'autres. Le mouvement identitaire, c'est, on en a parlé avec Samuel Bourron en partie, hein, mais se l'est un peu approprié via les théoriciens justement une partie des théoriciens de la Nouvelle Droite. Est-ce qu'il y a d'autres courants qui ont été imprégnés par cette refondation théorique ou intellectuelle proposée par la Nouvelle Droite ?
Dans le mouvement fasciste stricto sensu, je pense pas. Par contre, moi j'intègre les identitaires dans ce qu'on peut appeler le mouvement fasciste d'une manière un peu large. Par contre, dans d'autres franges réactionnaires, notamment chez les catholiques intégristes, on peut trouver ça. Alors je les exclus un petit peu parce que il se trouve que la réflexion écologique chez les catholiques, elle s'est faite en articulant les intégristes et des catholiques plutôt progressistes via un concept qui est celui de l'écologie intégrale, qui est un concept qui a été posé par le pape François, qui est pas le plus réactionnaire des papes, loin de là. Donc, ça a plutôt été un espace de dialogue, l'écologie intégrale, entre différentes franges de la catholicité. Il se trouve qu'en France, ça a été surtout verrouillé par les franges réactionnaires des catholiques, mais dans plein d'autres pays à travers le monde, c'est plutôt un courant progressiste des catholiques qui s'est approprié la question de l'écologie intégrale. Donc, c'est un peu compliqué de considérer que ce serait, disons, une forme d'écofascisme. Il y avait une revue qui a existé pendant quelques années qui s'appelait la revue Limite, dont on a beaucoup parlé dans les milieux écologistes et au sein de la gauche, qui défendait cette idée d'écologie intégrale. Il y avait une dimension très essentialiste sur le plan du genre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, ce n'était pas non plus une revue ouvertement anti-avortement, anti-PMA, anti-GPA ou anti-contraception, même s'il y avait énormément d'éléments qui permettaient de montrer un petit peu qu'il y avait ces positions-là qui étaient implicitement défendues. Par contre, sur le plan de la race, c'était pas du tout une revue qui avait thématisé cette question-là. Et au contraire, vu qu'il y avait pas mal de catholiques de gauche qui intervenaient dans cette revue-là, c'est plutôt des gens qui étaient dans des collectifs de soutien aux migrants, migrantes, etc. Donc c'est quand même un peu particulier. C'est difficile, je trouve, de saisir un petit peu ces courants-là qui sont pas complètement ancrés à l'extrême droite et qui ont aussi plein de liens avec des catholiques qui viennent d'autres horizons politiques.
Il y a le cas de Hervé Juvin, donc qui a été un des conseillers, des principaux conseillers de Marine Le Pen et qui, lui, vient très clairement de la Nouvelle Droite. C'est quelqu'un qui a écrit de nombreux ouvrages, y compris publiés chez Gallimard, si je ne me trompe pas, dans la collection de Marcel Gaucher, qui lui, pourtant, Marcel Gaucher est un vieux critique de l'écologie et qui prétendait, avec des gens comme Luc Ferry, que l'écologie avait une dimension presque intrinsèquement autoritaire, voire fascisante. Je ne me trompe pas, hein, tu vas nous le dire. Mais donc voilà, il y a le cas de Hervé Juvin, en tout cas, qui est intéressant.
Hervé Juvin, oui, il vient de la Nouvelle Droite. Après, au sein de la Nouvelle Droite, il est un petit peu... tout le monde ne le prend pas très au sérieux. C'est pas vraiment un théoricien, on va dire. C'est plus un vulgarisateur des thèses de la Nouvelle Droite dans un langage un peu plus accessible. Disons que je dis pas que Alain de Benoît écrit de manière cryptique, un petit peu, mais disons que Hervé Juvin, c'est quelqu'un qui est un peu plus implanté dans le champ politique, qui a pas du tout cette stratégie métapolitique de influencer le débat d'idées. Enfin, il l'a eu pendant un temps, mais après, il a décidé de
se rapprocher
du RN. Exactement, il était député européen jusqu'aux dernières élections. Il n'a jamais été membre officiellement du RN, je crois. Je pense qu'il a toujours plutôt gravité autour. Voilà, c'était un peu le monsieur écologie de Marine Le Pen. Et en fait, il reflète assez bien la manière dont le RN, dont on n'a pas trop parlé finalement là depuis qu'on parle d'écofascisme, se rapporte à la question écologique, dans le sens où c'est clairement pas un parti écofasciste, c'est pas non plus un parti qui va devenir écofasciste à mon sens à moyen terme. Par contre, c'est un parti qui a essayé d'intégrer la question écologique d'une certaine manière quand même dans ses réflexions et qui a compris que ça pouvait être quelque chose qui pouvait amener des gens vers l'extrême droite. Hervé Juvin, c'est une des occurrences de cette tentative d'intégrer des penseurs ou des personnalités écofascistes, mais il y a eu un précédent avec Laurent Ozon, qui est donc un idéologue identitaire, clairement produit de la Nouvelle Droite, etc., qu'on peut clairement considérer comme un idéologue écofasciste, qui avait été propulsé au bureau politique du Front National par Marine Le Pen, qui montrait quand même qu'il y avait...
Ouais, en 2011, je crois.
2010, ouais. 2010-2011, et puis qui finalement, après les attentats d'Anders Breivik, il a eu certaines déclarations qui l'ont poussé, en fait, à soit partir, soit être éjecté du bureau politique, on ne sait pas exactement. Il n'est pas resté très longtemps, il a fait à peine 6 mois au bureau politique du Front National. Mais ça, aller recruter quelqu'un comme ça, ça montrait quand même une volonté d'intégrer la question écologique, parce que c'est quelqu'un d'assez marginal et qui finalement n'était important pour le Rassemblement National que parce qu'il avait investi la question écologique d'un point de vue idéologique assez poussé. Voilà, donc on peut voir un peu des allers-retours comme ça et des tentatives d'intégrer un peu certaines personnalités comme ça. Ce qui peut se traduire parfois un peu dans les propositions, dans les discours, dans le programme, et parfois plutôt non. Je pense qu'il ne faut pas voir la chose comme un processus linéaire qui, de petit à petit, le RN devient de plus en plus écolo. Il y a plein d'autres impératifs qui pèsent sur un parti politique via son existence dans le champ partisan, quoi. Donc, c'est difficile d'avoir une lecture, je dirais, vraiment momentanée de la chose. Mais, par exemple, si on prend l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen a beaucoup thématisé la question du localisme. Alors, pas forcément sous un angle écologique, mais ça y fait appel quand même. Il y a quand même cette idée d'une agriculture locale, de produire local, etc., qui, dans l'imaginaire politique courant, en fait, est un produit politique des écolos, quoi. Donc, certes, elle ne faisait pas appel à l'écologie directement, mais il y avait quand même un peu cette idée-là. Puis, en 2023, on a plutôt le retour en arrière, avec, à la rentrée politique, Jordan Bardella, qui a plutôt défendu l'écologie du bon sens, cette fois. Et donc là, il y a toujours cette appropriation de la question écologique, de dire, voilà, en fait, c'est pas une question qu'on élude complètement, on la prend en compte. C'est quand même une différence par rapport aux extrêmes droites dans un certain nombre d'autres pays occidentaux, qui, cette fois, sont dans une critique virulente de toute forme d'écologie. Le RN est plutôt à dire, on la prend en compte, simplement, nous, on le fait avec mesure, et donc il reprend un peu cette idée du bon sens que l'extrême droite a beaucoup mobilisé dans toute son histoire, pour modérer un peu les ardeurs écologistes radicales que eux croient voir dans les politiques gouvernementales ou ce que la gauche peut défendre.
Oui, on a l'impression qu'au sein du RN, ça fait assez longtemps qu'en fait coexistent des positions un peu contradictoires, alors sur plein de sujets, parce que c'est un parti qui est très opportuniste, comme en réalité toutes les extrêmes droites, sur des sujets autres que l'immigration, etc. Mais par exemple, dans les années 80-90, on avait Jean-Marie Le Pen qui faisait la critique des Verts en disant ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, c'est des pastèques, quoi. Et vous aviez Bruno Maigret qui, peut-être parmi les premiers, qui lui aussi d'ailleurs venait de la Nouvelle Droite, qui dans les années 90, notamment dans la revue théorique du Front National qui s'appelait Identité, avait commencé à pousser cette question écologique. Ce qui fait que d'ailleurs qu'on a pu dire de Marine Le Pen qu'elle faisait du maigrétisme sans Maigret, à la fois sur la dédiabolisation, mais aussi sur l'appropriation de nouveaux sujets, notamment d'écologie, dont on voit finalement qu'ils ne sont pas si nouveaux en réalité au FN devenu RN. Il y a aussi cette dimension de la frontière qui est assez centrale. Il semble que c'était aux Européennes de 2019 que Bardella avait pas mal insisté sur l'écologie, c'est la frontière, et avec toute cette dimension de critique de l'immigration qui poserait d'immenses problèmes écologiques ou qui aggraverait de manière importante les problèmes environnementaux.
Ouais, je pense que c'est assez essentiel de voir que ce que tu décris là, c'est un peu la manière dont le RN va se rapporter à la question écologique. C'est-à-dire que l'écofasciste, ça constitue un petit peu un réservoir d'arguments pour justifier certaines propositions ou certaines politiques s'ils arrivaient au pouvoir, mais ça ne va pas devenir l'élément majeur de leur programme politique, de leur politique menée, si jamais ils arrivaient au pouvoir. Donc l'écologie, c'est la frontière, c'est quelque chose qui a été théorisé au sein de l'extrême droite intellectuelle, au sein de la Nouvelle Droite depuis très longtemps. Alors pas forcément sous des termes aussi clairs, parce que la Nouvelle Droite a toujours un peu ce vocabulaire un petit peu enrobant, où les choses ne sont pas dites de manière trop explicite, hein, c'est un petit peu sa stratégie métapolitique, elle prend un peu aussi ces formes-là, toujours un peu plus diffuses. Et donc l'écologie ne déroge pas à la règle de ce point de vue-là. Mais c'est un argument, l'écologie c'est la frontière, qui en fait est assez ancien au sein du corpus écofasciste.
Et alors sur l'attachement au territoire, moi j'ai souvent l'impression qu'il y a une sorte d'écologie des paysages, quoi, en quelque sorte, et que dans le prendre soin du territoire, alors il y a évidemment les circuits courts, tu l'as dit, mais par ailleurs, quid des circuits courts si ça suppose de traverser les frontières, par exemple, à la frontière sud vers l'Espagne, enfin bon, alors, on pourrait poser ce genre de questions, mais par exemple, il y a la question du rapport aux éoliennes. Bon, il y a une critique permanente des éoliennes chez les élus d'extrême droite, localement, etc., qui mènent des campagnes contre l'installation d'éoliennes. Donc ça peut aussi entrer en contradiction assez directe avec l'idée qu'il faut changer les sources d'énergie, etc.
La question du paysage, elle est vraiment très importante à mon sens, parce que c'est celle qui permet de montrer qu'il y a une porosité quand même importante, idéologique, entre anti-écologisme et écofascisme au sein de l'extrême droite, en fait. Dans le sens où la défense des paysages, c'est quelque chose qui partage à la fois les écofascistes et puis Éric Zemmour. Éric Zemmour, quand il parle d'écologie, il n'en parle pas beaucoup. Et quand il parle, c'est défendre le patrimoine naturel français, défendre les paysages français, etc. Parce que le paysage, en fait, c'est une matérialisation des rapports sociaux et des rapports sociaux de classe, de race, etc. dans l'espace. Le paysage, ce n'est pas un donné naturel, même si c'est comme ça que l'extrême droite le défend. Donc, ça permet de montrer que, en fait, peut-être qu'il y a un rapport à l'écologie d'un point de vue matériel qui est un peu différent, mais en fait, il y a un certain nombre de propositions qui sont très convergentes entre l'extrême droite traditionnelle et puis l'écofascisme au sens idéologique. Donc ça permet bien de montrer que voilà, il peut facilement y avoir un certain nombre d'éléments de discours qui peuvent être piochés du côté du corpus écofasciste. Après, sur la question de l'attachement au territoire en particulier, je pense que c'est là le cœur du discours écofasciste et de la pensée écofasciste, c'est autour de cette question de l'enracinement. Ce n'est pas les écofascistes qui ont inventé la notion d'enracinement, c'est une notion historique de l'extrême droite. Simplement, je pense que ce terme d'enracinement, il était jusque-là conçu dans un sens assez métaphorique au sein de l'extrême droite. Quelqu'un comme Joan Chapoutot, par exemple, l'a assez bien montré. Alors, il travaille pas forcément uniquement sur le concept d'enracinement, mais sur le concept de l'attachement à la question de la nature de manière globale dans les pensées réactionnaires. Tout ça avait un sens métaphorique de dire il faut que la société soit organisée comme la nature, la société serait un produit de la nature. L'idée, c'était de montrer qu'il y avait quand même une forme d'autonomie de la culture et que c'est ça qu'il faudrait défendre. Donc, toutes les formes de naturalisation étaient plutôt métaphoriques. Ce qui change, à mon sens, avec les écofascistes, c'est que tout ça n'est plus métaphorique, mais pris dans un sens écologique premier. Alors, ça change pas forcément grand-chose d'un point de vue des politiques menées, etc., mais simplement, il y a un geste quand même de dire que, en fait, il ne s'agit pas de dire que la société vient de la nature pour légitimer des hiérarchies en son sein, etc., il s'agit de dire que ne pas protéger la nature, c'est ne pas protéger la source même de la société. Et donc, il y a un peu une espèce de bouclage entre protection de l'ordre social, racial, de genre au sein de la société, et puis protection de l'environnement, que finalement, garantir la reproduction de l'environnement et son intégrité, c'est garantir les hiérarchies sociales qui en sont issues et les, on va dire, les conditions de reproduction de l'ordre racial, genré, social. Quoi.
Et alors, dans ton livre, tu insistes beaucoup sur, on va passer à l'autre dimension, qui est la fascisation de l'écologie, qui peut peut-être être plus difficile à saisir, mais qui te permet de pointer un certain nombre de choses qui peuvent rendre l'écologie perméable, en quelque sorte, à l'extrême droite, ou favoriser un certain succès des rhétoriques d'extrême droite dans cette appropriation, souvent assez superficielle, en réalité, du discours écologique. Alors, ça désigne quoi, déjà, la fascisation de l'écologie ?
Alors, entre la première version du livre et puis la réédition qu'on a fait un an et demi après, j'ai apporté un peu des précisions dans la postface parce que je pense que c'est vrai que c'est un concept un petit peu délicat. L'idée, c'est pas du tout de dire que le mouvement écolo se fascise. C'est pas un concept sociologique non plus pour dire il y a des écolos individuellement qui se fascisent ou des organisations écologistes qui se fascisent. Je pense que c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça que j'ai pensé la chose au départ. Ce que je désigne comme une fascisation de l'écologie, c'est la présence dans le débat public d'un certain nombre de conceptions de l'écologie qui favorisent une appropriation réactionnaire de celle-ci. Des éléments de discours qui sont diffusés notamment par des groupes écologistes, mais pas que, qui sont aussi des manières de cadrer le débat écologique dans l'espace public.
Le journaliste Hugo Clément, par exemple, ça pourrait rentrer là-dedans ou pas ?
Hugo Clément, c'est quelqu'un, bon, j'en ai pas parlé explicitement, mais c'est une forme de il défend une forme de fascisation de l'écologie, enfin, il œuvre à une forme de fascisation de l'écologie via sa dépolitisation de la question écologique. C'est une modalité un peu particulière, je pense, de fascisation de l'écologie. J'ai fait la postface du livre dans la seconde édition. Elle est un peu en réaction au fait qu'il est allé justement parler au grand rassemblement de Valeurs Actuelles, dialoguer avec Bardella, etc. Lui a une conception de l'écologie comme quelque chose étant au-dessus du politique. On ne sait pas exactement trop pourquoi, parce que en fait n'importe quelle question politique, elle concerne tout le monde. Donc son argument que en fait il faudrait parler à l'extrême droite parce que l'écologie les concerne, oui, ben. L'extrême droite aussi, l'éducation, entre guillemets, les concerne, la santé aussi. Ce qui compte, ce qui fait d'une question une question politique, c'est évidemment pas le fait qu'elle concerne tout le monde, ça c'est trivial. Ce qui compte, c'est le fait qu'il y a un affrontement de visions sur la manière de la financer, l'accès à ses services, etc. quoi. Donc bon, l'écologie, à mon sens, elle n'est pas très différente des autres questions sur ce plan-là. Donc l'argument de, voilà, il faudrait que l'écologie soit au-dessus du champ politique, au-dessus des affrontements politiques, c'est... à mon avis, quelque chose qui pave plutôt la route au fait que l'extrême droite peut se l'approprier aussi, ce qui n'était pas le cas. Enfin, pendant longtemps, effectivement, je pense que la question écologique était plutôt appropriée par la gauche.
En France, en tout cas, oui.
En France, et en fait, dans pas mal de pays, quand même, globalement, en France particulièrement, mais dans pas mal de pays. Et finalement, en fait, il n'y a aucune raison intrinsèque à ça. C'est une question politique comme une autre qui peut être appropriée d'autres manières. Alors bon, il y a la question quand même du capitalisme là-dedans, on n'est pas trop revenu là-dessus, mais voilà. Théoriquement, toutes les familles politiques peuvent s'approprier cette question-là, simplement elles vont l'investir de leur programme traditionnel en fait. Donc l'écologie de gauche et l'écologie de droite, elles n'auront jamais rien à voir. Enfin, ça dépend un petit peu, parce que justement on va peut-être revenir sur d'autres formes de fascisation de l'écologie maintenant, qui sont un peu plus...
Par exemple, autour de la question de la population, et donc la tentation malthusienne, qui sans doute était présente de très longue date dans les pensées écologistes.
Oui, la question de la population. Alors moi, j'ai pas travaillé sur le malthusianisme ou néo-malthusianisme en soi. Et puis il y avait, il me semble, dans l'épisode avec Pierre, vous avez quand même pas mal discuté de cette question-là.
Pierre Madelin.
Oui, Pierre Madelin. Donc l'épisode sur l'écofascisme d'il y a quelques années. Moi, travailler sur le cadrage de la question écologique dans le débat public via la question de la population. Donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé le terme de néo-malthusianisme, mais j'ai parlé de populationnisme écologique. Et donc cette idée que en fait, c'est très difficile de sortir d'un cadrage démographique de la question écologique dans le débat public. Et ça, c'est alimenté en partie par les écolos, mais pas que. C'est aussi une affaire de cadrage médiatique assez facilement appropriable. C'est plus facile d'interroger cette variable numérique démographique que d'interroger une structure politique, économique, qu'il faudrait remettre en cause, ou un certain niveau technologique, etc. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette question démographique, ce cadrage démographique de la question écologique, c'est une porte d'entrée facile dans la question écologique, et c'est aussi pour ça qu'elle est promue médiatiquement, etc. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que moi je pense qu'on ne peut pas évacuer la question démographique complètement de l'analyse, et je rejoins en ça Pierre Madelin là-dessus, au sens de, c'est une réalité que si on est 1 milliard ou 10 milliards sur Terre, ben, ça change un certain nombre de choses. Simplement, la question qui fait qu'on doit la rejeter si on défend une politique émancipatrice, c'est qu'en fait, tous les moyens d'agir sur la démographie en fait, sont des moyens extrêmement coercitifs, réactionnaires, racistes, dans la plupart des cas documentés dans la manière dont c'était mis en œuvre. Donc, considérer en tant que militant et militante pour l'émancipation sociale que c'est pas une voie désirable pour nous. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le cadrer et pas rejeter toute forme de réflexion sur la question qui aussi parfois nous fait passer à côté de certains enjeux, simplement d'un point de vue analytique, mais pas pour pas que ça devienne un élément programmatique non plus.
Il y a cette question qui est peut-être moins à la mode aujourd'hui, mais qui était très à la mode il y a 7, 8, peut-être 10 ans, autour de l'effondrement, le collapse, la collapsologie, etc. Et tu dis aussi que ça peut être une porte d'entrée assez facile pour des rhétoriques ou des discours d'extrême droite ou des forces d'extrême droite. Je pense que la mouvance soralienne a un peu été sur ce terrain-là, avec un côté survivalisme d'extrême droite. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si demain la société s'effondre avec... bon, et c'est très présent dans la culture de masse, de Walking Dead jusqu'à tous ces films catastrophiste que l'on voit dans les salles.
Oui, c'était donc cette mouvance de la collapsologie donc qui émerge à partir de 2015, donc ça fait vraiment 10 ans maintenant, qui défend cette idée qu'il va y avoir un effondrement écologique relativement proche, qui est une mouvance qui vient plutôt de la gauche écologiste, hein, aucun doute là-dessus, et je ne veux pas du tout faire de procès d'intention à un peu la principale figure qui s'appelle Pablo Servigne de ce courant. Ce qui est en fait compliqué, c'est que ce courant, il défend le fait que c'est la civilisation thermo-industrielle qui va s'effondrer. Donc, il y a une conception extrêmement matérielle de l'idée de civilisation par ses infrastructures, quoi. Mais sauf que dans le débat public dans la manière dont lui-même ou d'autres représentants de ce courant ont pu porter cette idée d'effondrisme, c'était un peu l'idée que c'est la civilisation qui va s'effondrer. Le thermo-industriel, il avait un petit peu disparu de la manière dont... Le discours était porté, quoi. Sauf qu'en fait, la question de la civilisation dans le débat public, bon, c'est pas une conception matérielle qui domine, quoi. C'est plutôt une conception raciale ou identitaire, enfin, même si une continuité, évidemment, entre les deux. Et donc, je pense que le fait de défendre dans le débat public qu'il va y avoir une forme d'effondrement écologique de la civilisation, que ce soit thermo-industriel ou pas, ça résonne plutôt avec un certain imaginaire de la guerre civile raciale. Enfin, ça peut contribuer à ça. Ça ne veut pas dire que la collapsologie en elle-même est une pensée d'extrême droite qui défend un survivalisme d'extrême droite armée, etc. Au contraire, en fait, les gens qui se revendiquent plutôt de ce courant sont plutôt des survivalistes, on va dire, de gauche, qui vont faire leur petit potager, etc., et qui ne vont pas se surarmer pour faire face à une éventuelle guerre civile raciale. Il y a un anthropologue qui s'appelle Mathieu Burgalassi, qui fait notamment aussi maintenant du contenu sur Internet, sur l'extrême droite, sur Instagram, qui est vraiment très intéressant, et qui lui a commencé une thèse, je crois qu'il ne l'a pas terminée, sur le survivalisme.
Et il a écrit un livre d'enquête sur les survivalistes.
Exactement, parce qu'il a fait, il a quand même fait son enquête, et le livre s'appelle « La peur et la haine ». Et en fait, on a fait une rencontre... ensemble une fois à une rencontre publique, et moi c'était intéressant pour moi parce que il y a un peu cet aspect de, on associe souvent survivalisme et écofascisme, et en fait on s'est rendu compte que c'est des logiques quand même assez différentes, en tout cas en France. Aux États-Unis c'est peut-être un petit peu différent, parce que en France finalement les écofascistes c'est pas vraiment des survivalistes, c'est une approche beaucoup plus intellectuelle, beaucoup moins que angoissée d'une guerre civile raciale, quoi. Alors même si ils peuvent la fantasmer, etc. Mais en fait il y a un rapport assez différent à la question de l'effondrement. Les écofascistes stricto sensu, en fait, ils sont très critiques de la société moderne. Donc, ils revendiquent presque une forme d'effondrement pour revenir à une vie traditionnelle, communautaire, rurale, autarcique et puis racialement homogène. Alors que les survivalistes, en fait, ils redoutent quand même cet effondrement-là. Ils sont plutôt à espérer que le système racial actuel se maintienne, quoi.
Il y a d'autres portes d'entrée que tu évoques. Il y a la question de la démocratie et notamment celle de la décroissance. Où à chaque fois, ton discours, c'est un peu comme sur l'effondrement. C'est pas de dire il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, en tout cas n'avoir aucune réflexion, par exemple, sur la décroissance. C'est clairement pas ton discours. Mais il faut clarifier en quelque sorte le discours écologique pour qu'il ne soit pas perméable ou peu ou le moins possible à l'extrême droite et à ses rhétoriques. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur notamment cette dimension de la démocratie et comment, là, ce serait peut-être autour de l'idée d'une dictature d'experts qui permettrait de prendre en quelque sorte les mesures absolument nécessaires et urgentes pour régler la crise climatique, voilà. Est-ce que là, il y a quelque chose d'assez significatif? Est-ce que ça prend un peu aussi dans les mouvances militantes ou politiques identifiables?
Dans les mouvances écologistes, en fait, ce que tu décris là, cette dictature verte, enfin, ce fantasme de la dictature verte, en fait, il n'existe presque pas. Globalement, c'est plutôt, et ça montre bien comment marche cette idée de fascisation de l'écologie, c'est plutôt une image qui est projetée sur les militants écologistes et sur les mouvements écologistes de manière plus large, face à un certain cadrage médiatique et puis un certain cadrage anti-écolo pour délégitimer un peu ces mobilisations. Il y a eu quelques mouvements qui ont pu défendre ça. Je vais prendre l'exemple de Extinction Rebellion, par exemple. Extinction Rebellion, quand le mouvement émerge, défend un peu cette idée d'état d'urgence écologique. Mais très rapidement, c'est une revendication qui a été abandonnée, notamment parce que Extinction Rebellion a noué des liens avec un certain nombre d'autres organisations antiracistes, antifascistes, des collectifs qui étaient investis sur d'autres questions. Et en fait, ça a transformé leur ligne politique. Sur le fait que bon, voilà, l'état d'urgence, bon, quand on est militant à gauche, c'est plutôt un concept qui nous inquiète. Et donc là, l'état d'urgence écologique, en plus, c'était très peu défini. On ne savait pas exactement ce que ça allait recouvrir. Il y a très, très peu de textes qui défendent quelque chose de ce type-là. Donc, c'était plutôt une revendication un peu balancée comme ça, et qui correspondait aussi très bien à la manière dont Extinction Rebellion a émergé. C'est un peu une campagne de type un peu ONG, qui est très verticale au début, même si le mouvement après est devenu très très horizontal. Voilà, et donc c'est pas quelque chose qui peut être imputable au mouvement écologiste. Par contre, c'est un cadrage qui continue de peser sur les écolos de manière globale, quoi.
Et sur la décroissance, est-ce que, par exemple, justement, le journal La Décroissance, c'est un cas d'étude de cette perméabilité d'un certain secteur restreint, malgré tout, hein, mais du mouvement écologiste à des rhétoriques qui peuvent venir de l'extrême droite, et notamment, dans mon souvenir, notamment des rhétoriques islamophobes?
Oui, La Décroissance, c'est le cas typique de ça, à mon sens. Par rapport à toutes les publications décroissantes qui existent, c'est, à mon avis, une de celles qui tend le plus vers des idées réactionnaires. Alors, c'est des gens qui viennent quand même de la gauche écologiste. Enfin, ça se discute un petit peu, c'est un peu compliqué en termes de ramifications, mais qui viennent plutôt du mouvement écologiste, en tout cas traditionnel, et qui se sont fait le relais d'un certain nombre d'idées réactionnaires, mais notamment parce qu'ils ont une conception en fait de la décroissance qui est, enfin, de la croissance en fait avant la décroissance, que la croissance économique est enchâssée avec la croissance des droits sociaux de manière globale. Et donc finalement, s'il faut une décroissance sur le plan économique d'un point de vue écologique, ben, en fait, ça, c'est aussi une décroissance sur le plan des droits sociaux. Donc c'est une critique en fait qu'on retrouve chez pas mal d'auteurs d'extrême droite ou d'auteurs, on peut dire, rouge-brun. Quelqu'un comme Jean-Claude Michéa défend cette idée d'une imbrication entre libéralisme culturel et libéralisme économique. On retrouve exactement la même chose chez Alain de Benoist. Et donc en fait, l'idée de décroissance dans ces certaines formes réactionnaires qu'elle peut avoir, en fait, c'est une critique de tout ça à la fois. Et je pense que c'est, à mon avis, un des critères décisifs sur cette idée de fascisation de l'écologie et comment on peut essayer de théoriser ça de manière un peu plus globale, c'est ce rapport à la question de la modernité. Le terme de modernité, il est vraiment polysémique, hyper difficile à appréhender concrètement, parce que il y a plein de sens différents dans ce concept. Moi, j'en détaille trois différents. La modernité comme un ensemble d'infrastructures matérielles, donc agricoles, de transport, de santé, que sais-je, industrielles de manière globale, etc. La modernité comme un ensemble de valeurs, on va dire, plutôt progressistes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elles sont intégralement progressistes, mais disons qu'il y a une ambivalence, évidemment, qu'elles sont fondées sur une histoire coloniale, etc., mais en tout cas, qui défendent une forme d'universalisme, même si ambivalent, qui est défendue globalement par la gauche dans toute sa pluralité. Et puis, ensuite, la modernité comme une certaine ontologie, un certain rapport au monde, une certaine division de la réalité entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la société, et donc sur lesquels on aurait des moyens d'agir différents. Bon, on peut laisser un peu cette dernière dimension de côté, elle est peut-être un peu plus théorique, un peu plus abstraite, mais en tout cas, il y a cette idée dans une partie du mouvement écologiste qu'il y a un enchâssement entre les deux dimensions, enfin on peut dire les trois, mais on va se focaliser sur les deux premières, la modernité comme ensemble d'infrastructures et la modernité comme ensemble de valeurs, et que du coup, si on veut critiquer d'un point de vue écologique les infrastructures, pour leur impact écologique, mais en fait, il faudrait aussi revenir en arrière sur un certain nombre de droits sociaux qui ont été conquis, on va dire, dans le dernier siècle et demi. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est conçu de manière latente, qui n'est pas forcément toujours déclaré au sein du mouvement écologiste, mais qui façonne un petit peu quand même l'imaginaire d'une partie de celui-ci.
Et par exemple, l'imaginaire, je ne sais pas, de communautés rurales, pré-industrielles, enracinées en quelque sorte, ou ancrées dans un territoire spécifique?
Ça, c'est le modèle écofasciste, clairement. Et puis, dans les textes de la Nouvelle Droite, c'est défendu comme ça. Du côté de la gauche écologiste, c'est plus compliqué. Moi, il se trouve que ma thèse actuelle, ça porte un peu sur ça. C'est essayer de comprendre un peu cette dynamique-là. Parce que l'idée, c'est pas non plus de dire que ben, c'est des écofascistes stricto sensu. Je pense que y a toute une gamme de positionnements qu'il faut réussir à déterminer. Mais voilà. Donc, pour l'instant, je vais pas trop répondre spécifiquement là-dessus, mais ça me semble être le point un peu central. Un des soubassements du livre, en fait, qu'est-ce qui m'a un peu motivé à l'écrire, c'est dire que toute une forme de scepticisme d'une partie de la gauche vis-à-vis des mouvements écologistes qui voyaient les écolos comme un peu passéistes, antimodernes, réac, voilà. Ben en fait, tout n'est pas complètement infondé Et c'est pas pour dire que globalement la gauche communiste a eu raison de mettre un peu à distance l'écologie, mais simplement pour dire qu'il y avait des points de tension en fait qui n'étaient pas résolus et qui je pense sont nécessaires à résoudre aujourd'hui. Un des objectifs du livre, c'était aussi de contribuer à cette clarification-là, qui je pense est déjà en œuvre hein, dans un certain nombre d'espaces. Et la pandémie a été un moment un peu de clarification sur ces questions-là.
Et alors comment tu penses toi l'articulation entre ces deux processus, donc d'écologisation du fascisme et de fascisation de l'écologie?
Je le pensais pas comme ça au début. Enfin, disons qu'au début je l'ai fait, c'est un geste sociologique un peu facile, voilà, les deux processus qui se répondent, qui sont construits un peu structure en chiasme, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment une résonance entre les deux processus. Bon, déjà, ils ne sont pas sur le même plan, hein, comme on l'a bien dit, c'est pas la même nature de processus, mais simplement, la fascisation de l'écologie, en fait, ça ne peut exister qu'à partir du moment où il y a une écologisation du fascisme. C'est-à-dire que des écolo-réacs, racistes, anti-avortement, etc., il y en a toujours eu. Simplement, avant, dans les années 70, 80, 90, ils étaient seulement marginalisés dans le mouvement écologiste. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient un peu mis à l'écart, or plus ou moins, hein, des fois pas tellement, hein, mais c'est des gens qui n'avaient pas un autre débouché politique vers lequel se tourner. Et moi, c'est un peu ma crainte, mais c'est une crainte un peu spéculative, c'est que petit à petit, l'écofascisme se consolide et soit de plus en plus identifié dans l'espace public et puisse permettre d'agréger un peu ces conceptions réactionnaires de l'écologie qui existaient par défaut plutôt au sein de la gauche écologiste jusque-là et qui pourraient se construire au sein d'un mouvement qui serait en train d'émerger. Alors pas un mouvement organisé, etc., mais plutôt une dynamique latente d'implantation néo-rurale avec des tendances réactionnaires de plus en plus affirmées.
Et est-ce qu'on a des exemples concrets, alors en France ou au-delà, donc potentiellement aussi à l'échelle mondiale, de mouvances écofascistes qui sont parvenus véritablement à se structurer, à s'ancrer, à s'implanter?
Oui, en France, assez peu. En France, il y a quelques groupuscules type Bastion Social qui ont investi la question écologique. Il y a aussi toute une dynamique de communautés, on va dire plutôt traditionnalistes, qui n'ont pas cette historique de groupuscules d'extrême droite violents qui s'implantent à la campagne. Donc il y a quand même cette dynamique néo-rurale écofasciste qui existe. Mais c'est difficile d'estimer, mais ce serait peut-être l'ordre de la centaine ou quelques centaines de communautés en France, qui est beaucoup moins que le nombre d'éco-villages plutôt ancrés à gauche qui existent, qui là se comptent plutôt en milliers en France. Enfin, éco-villages, c'est dans un sens assez large, hein, ça peut être pas forcément des villages entiers, hein, mais c'est des gens qui sont un peu dans cette démarche-là. Par contre, il y a des pays où c'est un peu plus clair. Alors moi, je suis pas spécialiste de ça, mais en Allemagne, par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement Anastasia, qui est une espèce de mouvance éco-nazie, quoi, qui fait référence assez clairement au passé nazi de l'Allemagne et à sa dimension raciale, etc., dans une dimension écologique aussi, et qui est dans cette démarche d'implantation rurale, de recréer des communautés autarciques, racialement homogènes, etc. Ce qui est important de voir, c'est que tout ça n'est pas contradictoire avec l'orientation carbo-fasciste des régimes qui sont conquis par l'extrême droite ou des partis politiques d'extrême droite en passe d'accéder au pouvoir. Je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait s'articuler. On a parlé plutôt de la dualité entre une extrême droite moderniste et une extrême droite plutôt passéiste. Bah là, en fait, on est typiquement là-dedans. C'est deux formes d'extrême droite qui se répondent l'une l'autre. Moi, je vois aucune incompatibilité à avoir un pouvoir carbo-fasciste qui défend l'implantation de communautés rurales qui vont œuvrer à produire une agriculture nationale pour nourrir la nation, etc. Enfin, c'est quelque chose qui ne me paraît pas incompatible. En tout cas, d'un point de vue spéculatif, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait se réaliser.
Par ailleurs, il y a un élément qu'on n'a pas donné, c'est que la dimension écofasciste est apparue explicitement dans plusieurs manifestes de militants néofascistes qui ont commis des attentats, comme notamment Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande, qui avait assassiné une cinquantaine de musulmans et de musulmanes en 2019, si je ne m'abuse.
Oui, alors là, c'est une spécificité peut-être de l'écofascisme un peu plus américain par rapport à l'écofascisme français. Les écofascistes français sont assez peu portés sur la question des armes et le terrorisme d'extrême droite, assez classique malheureusement maintenant. Effectivement, il y a une intégration de la question écologique dans la panique raciale d'un certain nombre de terroristes fascistes dans le monde anglophone. Moi, je n'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus. Il y a Pierre Madelin, depuis le podcast où il était passé, il a sorti son livre qui s'appelle donc « La tentation écofasciste ». Il revient un peu plus sur ces dynamiques-là et il montre que, voilà, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus implanté, le fait que, en gros, les groupes survivalistes qui redoutent une guerre civile raciale et qui, du coup, s'arment en conséquence, sont beaucoup plus imprégnés par des idées écofascistes au sens où on a pu les définir, et que du coup, l'écologie peut être intégrée aux motivations des projets terroristes de ce genre de personnes.
Et alors peut-être pour conclure cet entretien, comment tu vois justement la politique qui devrait être celle des écologistes, des militants écolos, du mouvement environnementaliste au sens large, vis-à-vis de cette question, que ce soit le carbofascisme, que ce soit les appropriations plus ou moins conséquentes ou superficielles par les extrêmes droites électoralistes type RN, ou l'implantation ou les tentatives d'implantation de communautés néo-rurales, racialistes, d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Vis-à-vis de l'implantation des communautés, ça je suis bien embêté, je sais pas trop quoi répondre. Après, de manière globale, vis-à-vis de la question écologique, je pense que la gauche, elle doit se rendre compte que l'écologie, c'est pas sa chasse gardée, mais que c'est un champ de bataille, en fait, comme n'importe quelle question politique. Je pense que c'est quand même un geste important, juste dans la manière de concevoir cette question-là, parce qu'on le conçoit pour à peu près tous les autres sujets politiques, mais pour l'écologie, il y a un peu cette idée, l'écologie, c'est forcément de gauche, et donc l'extrême droite, elle peut pas être attractive sur ce plan-là, elle peut pas être désirable sur ce plan-là, alors qu'en fait, je pense que, au contraire, le Rassemblement national a bien compris ce qui peut animer la base sociale carbo-fasciste dans son rapport à l'écologie. Ce n'est pas un rejet de l'écologie pur et simple. Et je pense que cette idée d'écologie du bon sens, de dire que les populations rurales et périurbaines, elles sont, entre guillemets, plus proches de la nature, elles ont un accès plus proche à des espaces naturels, à des forêts ou que sais-je, et que ça nourrit du coup une forme d'écologie du bon sens, et en fait, je pense que c'est un discours qui résonne beaucoup et qui montre bien que ce n'est pas une question de pour ou contre l'écologie, mais que c'est aussi revenir aux conditions matérielles d'existence des gens et comment ils dépendent d'un certain mode de vie, un certain mode de vie basé sur une économie impériale qui nourrit une forme de dépendance et d'attachement à ce mode de vie. Enfin, on revient à la question du carbofascisme, de la base sociale du carbofascisme qu'on évoquait plus tôt. Je pense que si on n'adresse pas ça, si on ne conçoit pas que c'est via la question des conditions matérielles d'existence qu'on peut penser à la question écologique, en fait, on loupe un petit peu tout le problème. On se recentre sur est-ce qu'il y a une adhésion idéologique au fait de croire au rapport du GIEC ou pas. Et alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas vraiment l'enjeu. Avec toutes les critiques qu'on peut faire sur les sondages d'opinion, on peut voir quand même que la question écologique, elle est souvent importante dans les préoccupations de la population. Alors, sous quelle modalité, dans quel sens, avec quelle conception, c'est difficile de savoir. Mais je pense que c'est quand même une donnée qu'on doit intégrer à notre réflexion, de dire, voilà, il y a un certain nombre de cadrages à renouveler un petit peu dans la manière dont on pense l'existence de la question écologique dans le débat public.
Et dans le fait d'en faire un champ de bataille, j'ai l'impression que dans ton livre, tu avances notamment deux autres choses qui sont l'articulation nécessaire avec d'autres questions, parce que l'extrême droite, elle, articule la question écolo, avec, on l'a dit, avec la question, par exemple, de la masculinité. Alors, articule pas toujours explicitement, mais implicitement, c'est assez net, avec la question nationale, dans un sens très national, racial, donc nationaliste et raciste, avec des dimensions spécistes aussi, si on veut. On peut ajouter cette dimension, à mon avis. Donc, la gauche elle-même doit proposer ses propres articulations, par exemple, entre l'écologie et la question sociale. Donc, ça, c'est devenu une sorte de tarte à la crème, y compris dans le discours de Tondelier sur une écologie sans lutte de classe et du jardinage, mais faut lui donner un contenu, quoi, y compris par exemple sur les questions qu'on a abordées de mobilité, de transport, etc. Un contenu ambitieux du point de vue des conditions de vie des classes populaires en particulier. Donc il y a ça, la question des articulations avec d'autres combats. Et puis il y a la question du projet de société. J'ai l'impression que tu énonces le fait que on doit pas simplement être non seulement réactif face aux politiques de destruction environnementale par rapport au capitalisme, mais proposer un projet de société qui donne un débouché, peut-être on pourrait dire utopique, dans le bon sens du terme, disons, aux luttes du présent et aux résistances qui émergent à peu près partout.
Oui, moi je rejoins assez la proposition de Frédéric Lordon dans Figure du communisme, de dire qu'il faut essayer de figurer le communisme, de montrer en fait ce que ça pourrait être, etc. Bon, je pense que sur la question écologique, c'est pas le plus fin, il est un petit peu bourrin, on va dire, de la manière dont il tape un petit peu sur un certain nombre de conceptions de l'écologie. Mais bon, je pense qu'il n'est pas méga spécialiste de ce sujet, enfin, il le dit lui-même, il est assez clair là-dessus. Mais je trouve la démarche très importante et le fait qu'il intègre la question écologique à ce projet politique-là, moi, ça me semble quelque chose d'assez essentiel. Et j'irais même un peu plus loin pour dire qu'en fait, la seule forme d'avoir une forme d'écologie juste aujourd'hui, c'est d'avoir un projet communiste. Dans le sens de déconnecter la question de la subsistance du travail. Pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel, parce qu'on a un certain nombre de secteurs. En fait, d'un point de vue écologique, il faudrait les fermer. Je pense que c'est assez clair. Évidemment, on peut pas dans une économie actuelle, si on fait ça, on met des millions de personnes dans la merde. Mais d'un point de vue purement matériel, sur le plan écologique, en fait, il n'y a pas trop d'autres solutions. Et la seule manière de faire ça, si jamais on ne croit pas, et c'est mon cas un peu au calcul d'économistes qui essayent de montrer les transferts d'emplois d'un secteur à un autre, etc., qui sont des conceptions quand même qui sont parfois difficiles à, je pense, à mettre en œuvre, qui vont, en fait, il y a des belles projections, des belles modélisations là-dessus, mais qui, concrètement, si on sort pas du capitalisme, ben forcément, on reste dans quelque chose qui va être extrêmement virulent d'un point de vue social. Donc, revenir sur cette question de déconnexion du travail et de la subsistance, ça me semble être une piste intéressante.
Et ce qui pose, tu disais, la question d'une forme de planification et d'outils démocratiques, pour le coup, et non pas bureaucratiques, mais démocratiques, par en bas, en quelque sorte, de définition des besoins et des secteurs dans lesquels il faut travailler, etc. Bah, j'imagine que les secteurs qu'il faudrait fermer dont tu parles, c'est par exemple les centrales à charbon.
Oui, il y a aussi certaines formes de tourisme de masse, l'aviation touristique, enfin, il y a plein de choses en fait, d'un point de vue strictement écologique. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on peut déconnecter la réflexion strictement écologique de comment on réfléchit à l'impact des secteurs. Et après, forcément, ce n'est pas la même chose de dire le fait de les fermer, c'est quoi les impacts sociaux à la fois pour les travailleuses de ces secteurs-là, mais à la fois aussi en termes de à quels besoins sociaux ça répond. Enfin, évidemment, c'est une réflexion hyper complexe. Mais je pense que c'est aussi intéressant de dire, il y a aussi des impératifs écologiques. Si on veut vraiment les prendre en compte, voilà ce qu'il faudrait faire. Ça ne veut pas dire que ça dicte une politique directement de comment on se rapporte à ces secteurs-là. Mais en fait, je trouve ça important parce qu'il y a un peu ce côté-là chez beaucoup de marxistes écologistes, du coup, de rejeter un peu la question de la décroissance, que c'est un peu un non-problème, que si on se réapproprie les moyens de production, pour parler en termes un peu généraux, on va pouvoir orienter comme on veut. Mais en fait, c'est... Je pense qu'il y a quand même un critère quantitatif qui est certes pas strict. Hein. Les limites planétaires, c'est pas un chiffre et puis on est au-dessus, en dessous. Enfin, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus complexe en termes de sciences du système Terre. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de réflexion quantitative à avoir sur... Enfin, qui est un peu déconnectée aussi de la question de quel type de société, quel type de production on a, quoi.
Il y a aussi des courants marxistes qui proposent des formes de décroissance éco-socialiste. Je pense à Michael Levy, enfin, et des courants et des intellectuels comme Michael Levy ou Daniel Tanuro. Peut-être vraiment toute dernière question. Est-ce que les soulèvements de la Terre, notamment dans leur campagne des Armands Bolloré, c'est pas un exemple aussi d'investissement, de mouvements, disons, qui viennent pour l'essentiel de la sphère écologiste, de contribution de ces mouvements à la lutte antifasciste? Est-ce que c'est pas un exemple à suivre ou peut-être pas de modèle, mais en tout cas, un exemple intéressant?
En tout cas, c'est un exemple de convergence, moi, je trouve extrêmement salutaire. Et c'est pas les seuls. Hein. En fait, si on regarde, il y a beaucoup de mouvements écologistes qui se sont tournés vers des collectifs antiracistes ou des collectifs antifascistes et que ça a transformé en retour leur ligne politique. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et le cas des soulèvements de la Terre, c'est aussi un exemple. Je pense que, notamment, ils ont sorti leur livre l'année dernière qui s'appelle « Première secousse », qui est un livre qui, je pense, sur la question du fascisme est très clair, à la fois sur le carbofascisme et sur l'écofascisme. Je me souviens pas s'il parle de carbofascisme de manière explicite, mais en tout cas, il y a une opposition très claire à toute forme de fascisme, qu'il soit écolo ou pas. Et donc, je pense que ça, c'est des formes de clarification qui sont aussi liées à des pratiques organisationnelles qui sont mises en œuvre dans les mouvements écologistes. Donc là, c'était les soulèvements de la Terre, mais Alternatiba, c'est un mouvement qui a scissionné ces dernières années. Je pense que c'était l'année dernière, où les groupes de Lyon, Paris et Montpellier, je crois, sont partis de l'Alliance Alternatiba, enfin de la Fédération Alternatiba à l'échelle nationale, notamment parce que localement, ils ont noué des liens avec des organisations antiracistes et antifascistes, et ça a transformé un petit peu leur conception de l'écologie, ça l'a politisé, ça l'a radicalisé. Et moi, je trouve ça intéressant de voir que c'est via ces alliances là que ça transforme aussi le projet qui est porté par les groupes écologistes.
Où l'on retrouve justement cette question des nécessaires articulations entre les combats, les différents combats pour l'émancipation. En tout cas, merci beaucoup Antoine.
Merci.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, disponible donc sur Spectre, spectremedia.org, une plateforme de podcast libre, indépendante, sans publicité, qu'on vous invite à soutenir en écoutant les podcasts sur le site ou sur des différentes plateformes d'écoute, qu'on vous invite à soutenir financièrement si vous le pouvez, évidemment, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle. O povo é quem mais ordena dentro de ti. Spectre.